même une personne senior a besoin d'être mentorée. On est moi ce que j'appelle des work in progress, et mon mantra c'est MVP your life.
Saviez-vous que le nom commun mentor a pour origine le nom d'un des héros de l'Odyssée, mentor et l'ami d'Ulysse, et c'est Ulysse qui lui confie la charge d'accompagner et d'instruire son fils, Télémaque. Ce terme remonte donc à la Grèce antique. Mais aujourd'hui, en tant que designer, avons-nous besoin de mentors? Et sur notre chemin de vie, sur notre voie professionnelle, avons-nous déjà rencontré un ou une mentor? Juliette et Rita sont mentors. Claire, Sisley et Olga sont mentorées. Elles vont partager avec nous leurs témoignages à la suite de la première saison du programme de mentorat Hexagone UX. Au sommaire de cet épisode, d'abord une introduction de la part de Sacha et Marine, qui ont lancé le programme de mentorat début 2019. Elles nous expliqueront pourquoi elles l'ont lancé et comment fonctionne ce programme un peu particulier. Chapitre 1. Une expérience sur 3 mois. À la suite de cette première saison, nous discutons sur le fonctionnement du programme et les motivations des mentors et des mentorées. Chapitre 2. Une relation pour transmettre et apprendre. Quels sont les sujets discutés entre mentors et mentorés et comment les mentors ont transmis leurs connaissances afin d'aider les mentorés. Chapitre 3. Comment être un ou une bonne mentor? Quelles sont les qualités pour être mentor? J'espère qu'à la suite de cet épisode, qu'après avoir écouté ces témoignages, vous aurez envie de continuer à transmettre ce que vous connaissez ou à trouver un ou une mentor qui pourra vous accompagner. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Design Masterclass sur le site internet designmasterclass.fr, mais également sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify ou Google.
Le programme de mentorat Hexagone UX, c'est un programme dédié à l'accompagnement des femmes et des personnes non genrées dans les métiers du design. À l'origine du projet, il y a Sacha. Elle était mentorée à San Francisco. Le programme l'a beaucoup aidée et elle a gardé d'excellentes relations avec sa mentor. Donc quelques années plus tard, en arrivant en France, elle a impulsé la création d'Hexagone UX. Avec deux volets, l'organisation d'événements design et le programme de mentorat. Concernant le programme de mentorat, on part de constats simples. Le premier est que le design est une pratique très liée à la tech, donc dans un environnement masculin. Le second, que c'est un domaine encore jeune à Paris, bien qu'en forte croissance. Il y a donc à la fois peu de modèles à suivre et peu de femmes qui exercent dans ce métier. L'objectif du programme de mentorat est donc double. Aider les femmes et les personnes non genrées à s'affirmer et à trouver leur place sur la scène tech française et contribuer à faire grandir la communauté design à Paris en la féminisant. Le programme se découpe en saisons. Une saison de mentorat dure 3 mois et commence par un matching event. Le matching event, c'est un événement au cours duquel nous faisons se rencontrer les mentors que nous avons recrutés et les personnes candidates pour être mentorées. À la suite de ces rencontres, sur la base des fits humains et des objectifs, attentes des unes et des autres, l'équipe d'Hexagone forme des pairs mentor-mentorés. Là, c'est parti pour 3 mois, où mentors et mentorés se rencontrent au moins une fois toutes les 2 semaines, selon le format de leur choix. Un café, un déjeuner, via Skype, peu importe. Nous, au cours de ces 3 mois, on envoie des mails pour accompagner le rythme des rendez-vous, donc toutes les 2 semaines, et pour donner des idées de sujets à discuter. On essaie de donner du contenu sur qu'est-ce que ça veut dire être mentoré, comment mieux prendre la parole en public, ou on donne des tips pour changer de carrière, par exemple. Après, le contenu des rendez-vous dépend vraiment des pairs. Ce sont elles qui choisissent de parler en fonction des besoins ou des interrogations que les unes et les autres peuvent avoir. La première saison s'est terminée au début de l'été. Nous avions une quinzaine de pairs mentors-mentorés. Globalement, le bilan est plutôt positif, même si en fonction des duos, les expériences ont été assez différentes. On sait qu'on doit s'améliorer pas mal en termes de communication et de développement de la communauté, notamment pour que les différentes initiatives au sein des pairs soient mieux partagées. Et je me suis également rendu compte que dans certaines paires, il pouvait y avoir des asymétries en termes d'attente. On sait qu'on doit s'améliorer sur la façon dont on fait le matching également.
Je m'appelle Sacha, ou même Alexandra, j'ai les deux noms, prénoms en fait. Parce que je suis russe américaine et je suis déménagée, je suis venue en France il y a 2 ans. Comme Hexagone... organise des événements, c'est le premier but de cette organisation. J'ai commencé par ça, mais j'ai toujours voulu commencer le programme de mentorat parce que moi j'ai participé dans ce programme à San Francisco et ce programme m'a beaucoup aidé. Je vais expliquer plus tard. Et j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les startups ici. Les femmes sont vraiment comme les animaux en danger ici. Et je voulais vraiment élever les femmes et les aider. D'abord, je vais expliquer un peu le contexte, parce que je n'étais pas designer dès le début de ma carrière. J'ai changé ma carrière il y a 5 ans. Et j'ai pris cette décision en même temps que je suis tombée enceinte. Et en fait, c'était très compliqué d'être enceinte en même temps que j'ai changé la carrière. Et je me souviens que j'étais assez perdue. J'étais assez perdue entre mon nouveau métier et la maternité. Et Hexagone m'a beaucoup aidée parce que j'ai trouvé une communauté de femmes qui ont souvent partagé les mêmes soucis. Et donc, j'ai commencé à participer dans les événements de Hexagone pour sortir la maison parce que j'ai passé toute la journée avec mon bébé. Je voulais sortir et discuter des choses, progresser dans ma carrière. Et puis, j'ai trouvé vraiment des amis et des mentors informels. Et donc, pour moi, c'était évident de me postuler dans le programme de mentorat quand j'ai eu l'occasion. J'étais acceptée, que c'était, à l'époque, c'était assez compliqué parce que à San Francisco, le demande était très, très haut. Et donc, j'ai eu de la chance. Et quand je suis venue à l'événement de matching, j'ai regardé tous les mentors, on a lu les bio. Et bien sûr, je voulais travailler avec la femme de Airbnb ou Google. Et c'était vraiment assez superficiel. J'ai regardé sur le CV et c'était tout. Mais enfin, quand j'ai commencé les entretiens, j'ai rencontré une femme qui était plus senior que moi, mais elle a eu un enfant de même âge que le mien. Et on a cliqué instantanément. Et après, c'était, comme on dit en anglais, the rest is history. C'était le match parfait. Et on a beaucoup grandi ensemble, je pense, parce que pour elle, le mentorat était une façon d'apprendre aussi. Et elle m'a appris beaucoup sur la communication dans l'entreprise, comment grandir les soft skills. Parce que moi, j'étais un cas un peu intéressant parce que j'étais assez senior dans ma carrière, mais j'étais toute débutante dans le design. Et donc, j'ai dû vraiment trouver un balance, un équilibre entre les deux. Je vais vous dire que la première fois que je me suis postulée au programme de mentorat à San Francisco, je n'étais pas acceptée. Et donc, moi, je suis assez persistante, peut-être parce que je suis déjà 2 fois immigrée et j'ai grandi dans le... Après la chute de l'Union soviétique, donc la persistance est un peu pour moi la méthode de survivre. Mais il faut vraiment demander plus qu'une fois. Si la première fois, vous n'avez pas eu du succès, vous n'avez pas réussi. Et le deuxième conseil, c'est il faut savoir ce que vous voulez, ce que vous cherchez dans ce programme. Parce que sinon, vous allez perdre le temps pour votre temps et le temps de votre mentor. Il n'y a rien à perdre. Si vous vous postulez, ça prend 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Il n'y a rien à perdre. Le pire, ce qui va passer, c'est que vous ne serez pas accepté. La première fois, peut-être. Peut-être la deuxième fois, vous serez accepté. Donc moi, j'ai une philosophie de vie, il faut toujours poser la question, il faut toujours demander, parce que le pire sera le status quo. Mais la première observation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se postulent. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est que même quand le candidat postule, les buts, on demande que la candidate décrive comment elle, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche dans ce programme, dans un mentor. Je trouve les réponses un peu génériques, un peu superficielles. Et je ne sais pas si c'est que les Américaines sont entraînées de se sell yourself, de se vendre. Et elles peuvent écrire une belle histoire de leur intérêt, quelles sont et pourquoi elles sont des bonnes candidates pour ce programme. Peut-être c'est une question de marketing, en fait. Peut-être c'est une question de vraiment la position des femmes dans la société. Et donc, je me pose cette question.
Chapitre 1. Une expérience sur 3 mois.
Donc, je suis Juliette, je suis product designer depuis plusieurs années. J'ai été pendant 1 an et demi sur une grosse mission de création d'applications et je retourne en indépendante à partir de maintenant. À la base, je voulais être mentorée parce que j'étais dans une situation où j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait être, pas forcément me superviser, mais me guider. J'étais sur un poste où j'étais toute seule, où je devais occuper plusieurs postes, faire plusieurs tâches différentes et surtout apprendre à manager des équipes. Et Marine m'a convaincue, m'a proposé d'être mentor et je suis partie du principe que la relation mentor-mentoré était une relation humaine et que ma mentorée pouvait absolument m'apprendre autant de choses que je pouvais lui apprendre. Donc ça pouvait être aussi une relation d'égal à égal. Globalement, c'était très bien. On s'est très très bien entendu. Ça a tout de suite matché au speed dating entre guillemets qu'avaient créé Sacha et Marine. Je trouve que d'ailleurs la mise en relation était très intéressante. Mais pour être totalement honnête, je m'attendais à pas plus d'échanges, mais plus de sollicitations. Si j'avais eu une mentor, mais je l'aurais harcelée. Et je m'attendais justement à être un peu plus harcelée. Après, il y a aucun blâme. Hein, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que ma mentorée ne nous est pas non plus. Donc c'est pour ça que je ne savais pas si je devais lui dire de plus me solliciter ou pas, ce que j'ai fait.
Bonjour, je m'appelle Rita et je suis CPO dans une start-up à Paris qui s'appelle Kicker et qui fait un média social pour le hip-hop. Donc c'est assez sympa comme exercice. Et avant d'être CPO, en fait j'étais UX designer. Ma première expérience était en start-up aussi. Et puis après, je suis allée dans le conseil où j'ai travaillé la plus pour des grands comptes, où j'ai un peu fait vraiment mes armes à ce moment-là. Et puis je suis revenue quand même à mes premiers amours en start-up, en B2C en plus, sur des sujets assez passionnants d'expérience utilisateur et de produits. Ça répondait en tout cas à une envie que j'avais depuis très très longtemps. J'ai l'impression que j'avais accumulé pas mal de choses et qu'il faut redistribuer un petit peu la connaissance, le savoir et aussi juste l'expérience à quelqu'un. Enfin, je me voyais en elle en fait. Et je me suis dit, j'aurais bien aimé avoir un mentor moi aussi à ce moment-là. Si je peux juste aider un petit peu, c'est cool. La démarche en soi d'Hexagon UX m'a paru très intéressante, très construite en fait, avec des partis pris assez forts, notamment le fait que ce soit pour un certain type de public, donc femmes ou personnes non-binaires, des sujets auxquels je suis sensible par ailleurs. Et sur le process aussi, c'est-à-dire que le matching, c'était pas de l'improvisation, quoi. Donc il y avait une vraie démarche de faire matcher du mieux possible les mentorés avec les mentors Donc, côté mentoré, elles avaient à présenter, enfin, elles ont fait un formulaire, côté mentor aussi. Et puis, il y a eu un matching event qui s'est super bien passé, en fait, les mentors se sont présentés. Et puis après, c'était ambiance speed dating. Donc, pendant 5 minutes, donc c'est très court, on rencontre 5 personnes d'affilée. Puis, quelques jours plus tard, j'étais matchée avec Elena. Et ce que je trouvais aussi assez chouette, c'était que c'était le mentoré qui devait prendre l'initiative du premier rendez-vous. Et à partir de là, bah on a plutôt suivi les recommandations en termes de planning, c'est-à-dire qu'on essayait de se voir 2 fois par mois en fonction de nos disponibilités. Et ce qui était chouette, c'est qu'elle travaillait pas très loin d'ici, enfin de mes bureaux, et donc on se retrouvait un peu à mi-chemin à déjeuner, et ça nous laissait voilà 1h30, on a fait 2 heures parfois pour vraiment discuter et approfondir les sujets. Et puis au fil de temps, après c'était aussi les échanges par texto, tiens j'ai trouvé un article cool, et pour des sujets un peu plus approfondis, on passait par le mail. Bah, typiquement quand il s'agissait de revoir des documents, lettres de motivation, CV, enfin voilà, c'était assez problématique à elle à ce moment-là.
Alors moi je suis Claire Sierkowski, je me définis comme designer. Designer parce qu'on est dans un métier qui change beaucoup. Je sors d'une expérience de presque 2 ans à Cozy Cloud en tant que product designer, où j'étais un peu designer couteau suisse, où je faisais à la fois un petit peu de design marketing, mais surtout design orienté produit, avec un petit peu toutes les étapes de A à Z, de l'idéation au recettage, après la mise en production par les devs. Ben, ça a été une relation de confiance. Je connaissais déjà François parce que je l'avais rencontré l'année d'avant. Et donc, du coup, on avait déjà eu l'occasion de discuter un petit peu de Cozy. J'avais bien accroché aussi à comment il présentait les choses. Et il a un tempérament super zen. Et du coup, ça permet aussi de temporiser soi-même. Parce que c'est vrai que travailler en start-up, c'est pas forcément de tout repos. Et il faut arriver, en fait, à avoir un petit peu ce côté... malgré la pression, savoir prendre du recul, en fait. En fait, c'est une réflexion que j'ai depuis plusieurs années maintenant, où j'ai commencé à lire pas mal d'articles sur le sujet, sur le fait qu'en fait, les femmes dans la société ont plutôt tendance à avoir un rôle de conciliatrice, plutôt un rôle lié au middle management. Mais quand il s'agit d'aller sur des positions hiérarchiquement plus élevées, ça a tendance à se raréfier, en fait, leur présence. Et je pense qu'il y a une partie qui est liée au fait qu'il y a un biais sur les compétences qu'on a tendance à acquérir, les compétences qui sont liées justement à la stratégie, à savoir chiffrer, avoir une vision un peu haut level des moyens à mettre en œuvre pour un pôle. C'est plutôt quelque chose qui a tendance à être dévolu aux hommes plutôt qu'aux femmes. Et je pense que le mentorat, ça permet aussi, en étant conscient des biais de compétences qui sont données aux hommes et aux femmes, de renverser un petit peu cet équilibre-là et de permettre à des personnes qui ont cette capacité de devenir lead de prendre l'envergure qu'elles peuvent atteindre, en fait.
Je m'appelle Cicely Roche, je suis product designer, product designer au Figaro jusqu'à il y a une semaine, et dans une semaine, j'intègre l'équipe de Europcar Mobility Group pour justement travailler en squad et sortir un peu de ma zone de confort et aller dans plus de la recherche, plus des tests et découvrir surtout les sales, le e-commerce que j'ai encore jamais travaillé vu que je bossais dans les médias. Ce que moi j'appelle un bébé Figaro, c'est-à-dire que j'ai fait mon stage, j'ai fait 2 ans d'alternance et ensuite j'y suis retournée, ça faisait 3 ans que j'y étais. Et donc à partir du moment où on a 5 ans d'expérience dans une boîte, on a des habitudes, c'est toujours nous on n'a pas déménagé donc c'est toujours le même trajet, on croise possiblement des mêmes personnes même s'il y a du turnover. Il y a quand même des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Donc, résultat, j'étais vraiment dans ma zone de confort. Et au début de l'année, il y a mon ancien boss qui a démissionné. Et ça a amené plein de choses positives comme négatives. Et des choses négatives comme une perte de confiance en soi, une remise en question. Et même s'il avait tendance à nous dire « tu pourras aller n'importe où après, t'inquiète pas », moi, il y avait un manque de légitimité. Et j'avais l'impression que de faire de participer à ce programme me permettrait justement d'être accompagnée, d'avoir un regard extérieur. Et ça, je trouve ça, ça apporte toujours une, quand on a quelqu'un qui nous connaît pas et qui nous dit, mais non, t'inquiète, ça va aller, ou qui nous pousse justement dans nos retranchements, ou qui nous fait aller dans cette zone de confiance, c'est autre. C'est un autre conseil que des amis ou qu'une personne qui nous connaît depuis longtemps. Donc moi, ça a été la première chose qui m'a donné envie. J'ai participé au matching event et on a matché avec Ivan. Donc Ivan Stefanak qui bosse chez Google. Et donc on s'est vu, on s'est pas vu énormément, on s'est vu 3 fois je crois. Mais quand on se voyait, c'était pendant 1h30, on se voyait et on mangeait ensemble. Et on partageait énormément sur nos vies professionnelles comme personnelles. Et on avait aussi une discussion WhatsApp dans laquelle on échangeait. Et justement, on pouvait se relancer ou on pouvait se demander où on en était ou quand est-ce qu'on pouvait se voir. J'avais pas envie de le déranger. Et c'est d'autres personnes qui m'ont dit « Non, en fait, à partir du moment où on a signé pour, on est là pour vous. » Et c'est peut-être quelque chose que j'aurais peut-être dû plus engager, de le solliciter plus dès que j'avais une question ou d'autres personnes qui ont parlé de leur mentorat pendant la soirée de débrief ont dit qu'ils avaient dès le début mis un plan d'action concret avec des faits, enfin voilà ce qu'on va travailler, voilà ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va le faire. Et peut-être que on aurait peut-être dû mettre plus de cadres, mais après c'est pas chacun vit sa relation de mentoring de manière différente, donc
ces 3 mois, ça s'est passé très très vite. Je pense que c'est très courte période pour mentorat. C'était super. Mais j'aimerais bien en faire plus. J'espère qu'avec ma mentor, on va se rencontrer en futur. Parce que vraiment, ça m'a donné un petit goût de mentorat, de bonbons mentorat. Ça m'a donné énormément des connaissances, énormément d'informations que je cherchais ailleurs et que je ne pouvais pas trouver. Mais j'espère que ça va continuer. J'espère que je vais encore beaucoup apprendre en cours. Je m'appelle Olga Pietrzak, qui c'est difficile à prononcer en français parce que je suis polonaise. Mais aujourd'hui, je travaille en tant que UX designer chez Hello Talent, ou Hello Talent, comme on préfère, qui fait partie de Talentsoft, une entreprise qui crée des softwares pour les RH. Déjà, j'ai trouvé ce mentorat un petit peu par hasard en ligne, mais c'était très bonne nouvelle et trop, très bon moment pour moi. Parce que je suis en une situation un petit peu particulière, je trouve, parce que je suis étrangère en France, et ça arrive avec des problèmes un petit peu particuliers aussi. Je pense que c'est quelque chose avec lequel tous les étrangers peuvent s'associer, ou peut-être les Français qui travaillent à l'étranger aussi, ou qui pensent à travailler à l'étranger. Parce que quand je suis arrivée en France, j'avais déjà 4 ans d'expérience en UX, mais j'ai trouvé très difficile de me faire légitimiser parce que je viens d'autres pays, j'ai pas forcément des connaissances, j'ai pas des liens, je connais pas d'entreprises. Par exemple, je savais pas même qui était Doctolib, les grandes marques, je savais pas forcément. Et donc, je savais pas vraiment où commencer. Et aussi, mon portfolio était très particulier parce que j'ai passé 4 ans à travailler dans un ministère. Et je voulais en revanche commencer de travailler dans l'entreprise privée, particulièrement en start-up. Donc, c'est un grand, grand écart. Et j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider à fermer cet écart, à m'aider à mieux naviguer dans l'espace d'entreprise française, aussi m'aider à comprendre comment les choses marchent aussi, parce qu'il y a des différences culturelles que j'ai rencontrées qui n'étaient pas forcément faciles à comprendre. Donc je cherchais quelqu'un comme ça, et j'ai trouvé Hexagon, et c'était vachement super de trouver que les mentors, quand j'ai vu la liste, ils ont trouvé des mentors de très différents backgrounds, on peut dire. Donc, je trouvais pareil quelques étrangers. Je me suis dit, ouais, ce sont les gens avec lesquels je vais travailler parce qu'on a vécu les mêmes expériences. Et bon, ils sont déjà en France depuis des années, comme pour moi, c'était mon premier an. Et voilà, c'est, ça a commencé comme ça.
Chapitre 2. Une relation pour transmettre et apprendre.
On n'a jamais fini d'apprendre. Impossible. On a toujours quelque chose à apprendre et c'est pour moi une richesse, l'apprentissage, la culture. C'est le moyen d'échanger, c'est le moyen d'être ouvert, c'est le moyen d'être encore plus humain. On finit jamais d'apprendre. Je dévie totalement par rapport au design, mais en soi, c'est exactement la même chose. Et le design ne cessera d'évoluer, de par l'évolution digitale, de par l'évolution des technologies. On finira jamais d'apprendre. Donc il y a eu plusieurs points. Avant toute chose, c'était son avenir. Parce que pour la petite histoire, elle sortait d'une école. Elle avait réussi à se faire transférer dans sa propre entreprise, ce qui est génial. Et le premier, c'est savoir combien de temps elle devait attendre dans cette entreprise où elle se sentait bien. Mais elle voulait changer. Elle avait plus de perspectives. Je ne sais plus si elle préférait les startups ou les plus grosses entreprises. Mais le premier, c'était l'avenir sur 5 ans. La deuxième, c'était ce qui peut être assez récurrent, c'est comment réussir à communiquer avec ses collègues, avec son boss notamment, c'est savoir transmettre ses besoins et surtout ses inquiétudes. C'était le second point. Après, de mon côté, bon, j'ai discuté avec beaucoup de personnes et on en a aussi discuté ensemble avec ma mentorée, c'était le freelance. Donc tout le monde veut se lancer dans le freelance. Je pense que je ne sais pas qui est le dire comme du freelance, mais je pense qu'il s'y prend très très bien. Parce que je pense que les gens pensent que c'est gagner beaucoup d'argent, la solution de facilité, la liberté, pouvoir voyager, digital nomade. Certes, oui, mais on cache cet aspect qui est quand même énorme, qui est l'aspect commercial et l'aspect monétaire, l'aspect client. Trouver des clients, se faire payer en temps et en heure. Donc voilà, ce sujet a été abordé maintes fois. Le sujet de la collaboration avec les développeurs, c'est très important. Le langage à utiliser, comment faire pour se faire comprendre par les développeurs. Ça, c'était aussi une grande question, et c'est une question qui est abordée par tous les designers et par tous les développeurs. Même moi la première, j'ai l'impression de ne pas parler le même langage que mon développeur. Il faut plus je sais pas, j'ai fait une formation récente qui s'appelle Lego Service Play, et je pense que ça permet de faire des ateliers, de résoudre des problèmes grâce au Lego. Des techniques, bien sûr, de prototyping direct avec les Lego pour voir directement la situation et pour régler des problèmes. Mettre un petit peu le problème sous les yeux des gens et trouver des solutions ensemble. Donc déjà, ça passe par un rapprochement de toutes les différentes équipes. Et pourquoi pas faire des ateliers pour rapprocher les équipes, développeurs, designers. Déjà qu'il y a un certain équilibre entre les deux, ce serait super important. Mais pour réussir à bien communiquer. Donc ça c'est un conseil plus de manager que je donnerais justement. C'est comment faire en sorte de bien communiquer avec celui qui prend la suite du projet. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai plus appris sur moi-même et la nécessité justement d'avoir aussi bien un mentor qu'une mentorée. Parce que c'est comme être professeur. Être professeur, déjà faut être pédagogue et c'est une qualité qui n'est pas facile à avoir. Tu vas un peu confirmer tes connaissances, d'une certaine façon. Donc moi, ça m'a permis de vérifier ce que je connaissais, déjà. Ça m'a permis d'être plus ouverte, plus à l'écoute. Enfin, sans vouloir me jeter des fleurs, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. Mais ça m'a permis, justement, de m'ouvrir encore plus là-dessus. Et de me dire que effectivement ma mentorée peut m'apprendre des choses, je peux apprendre des choses à ma mentorée, on reste dans une relation commune et mutuelle.
Il y a un des points que je sous-estimais peut-être un petit peu dans la relation de mentorat, c'était à quel point c'était important pour moi de transmettre. En fait, je me positionnais un petit peu, au début je me représentais le truc comme je vais être un coach, qui va être plutôt là pour parler des doutes, des incertitudes, parce que, comme beaucoup de gens, j'ai eu un démarrage dans la vie active plein de doutes et d'incertitudes. Donc, je me dis, je vais être là pour rassurer, je vais être quelqu'un d'étayant, gentil, bienveillant, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre couche de profondeur, c'est qu'il y avait quelque chose de très, très, très important pour moi, c'est que j'avais accumulé du savoir, j'avais accumulé de l'expérience, mais c'était jamais sorti. J'ai pensé à écrire des fois, mais ça venait pas forcément, et je me rends compte que c'est beaucoup plus agréable pour moi de faire ça dans un lien avec une personne. Et l'image qui m'est venue, c'est qu'en fait, un savoir qui se transmet pas, c'est comme l'argent qui dort à la banque, en fait, ça a pas de valeur. Et parce que quand tu le transmets, tu le transformes aussi. Tu le transformes, en fait, tu te rends compte que tu arrives à développer un autre niveau de discours sur ta propre pratique. Et donc, il y a quelque chose de réflexif en même temps dans ce rapport. C'est à la fois généreux et égoïste, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Et parce qu'au contact de l'autre, ça se transforme. Et avec Elena, ma mentorée, souvent, je me suis surprise à dire cette phrase. Ah, c'est la première fois que je dis ça à haute voix. Ou alors, ah, c'est... En fait, je pensais depuis longtemps, mais je l'avais jamais formulé sous cet angle. Et en fait, alors qu'on parlait d'elle, que ça partait de son expérience à elle, de son sujet, et toi, tu essayes de voir, bon, du coup, qu'est-ce que dans mes expériences passées, je pourrais aller chercher qui pourrait l'aider, etc. Et tu commences à élaborer un discours et là, tu arrives à quelque chose. Enfin, souvent, je me suis dit, il faut que j'écrive cette phrase. Bon, je ne le faisais pas, mais ça fait autant progresser. Et donc, la relation est loin d'être univoque, quoi. Il n'y a pas de sachant, apprenant. Tu es aussi dans l'apprentissage toi-même. Donc, c'est ça que je trouvais assez chouette et que je n'avais pas forcément en tête au moment de démarrer ce programme. Elle avait une demande qui était assez spécifique, c'est je vais changer d'orientation professionnelle et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour faire les bons choix dans ce nouveau positionnement professionnel. Donc elle avait déjà la certitude de son envie, de son désir, mais comment vraiment l'adresser dans le réel? Donc ça veut dire trouver une boîte où elle sait qu'on fait des produits de qualité, avec des process de qualité, où elle va pouvoir apprendre. Se présenter, que ce soit dans un entretien d'embauche ou valoriser ses expériences dans CV, lettres de motivation. Donc on a quand même pas mal bossé là-dessus. Beaucoup de questionnements aussi sur comment je me positionne dans la relation professionnelle avec les gens avec qui je collabore, que ce soit les designers, que ce soit mon manager, les devs, etc. Et donc la question de la légitimité, elle revient assez souvent, de toute façon, à tous les niveaux. Mais est-ce que je suis légitime ou en tout cas, comment porter un discours, comment entraîner les autres aussi, tout ça? Et puis après, il y avait... en fait, je connais pas beaucoup de gens qui font du PM et j'aimerais bien avoir un réseau et des gens sur qui je peux m'appuyer. Donc voilà, tout un ensemble de problématiques qu'on a traitées au fil de l'eau pendant ces 3 mois. Au début, je me disais, je sais pas en fait si je vais vraiment réussir à l'aider ou pas. La première chose, c'est je vais comprendre, écouter... et essayer d'interpréter un petit peu la demande et j'avais pas vraiment de programme établi. De manière assez intuitive. C'est-à-dire que une fois que j'avais pris le temps d'écouter, il y avait des choses qui résonnaient de mes expériences passées. Donc je lui en parlais, j'essayais aussi de... Alors, j'utilise beaucoup l'humour pour dédramatiser aussi des situations qui pouvaient être compliquées, ou je lui parlais de moments où j'ai été moi en vulnérabilité aussi, pour qu'elle se dise « Ok, ça va, en fait, tout le monde est passé par là. » Donc, il y a un peu par le récit. Et aussi, après, il y avait des cas plus concrets. Par exemple, elle devait animer un atelier de conception dans une avant-vente qui était compliquée, qui était assez ambitieuse. Et donc, elle a été mise dans une position, de lead là-dessus. Et donc, je l'ai aidée un petit peu à organiser les différents moments de son atelier en disant, vous pouvez pas tellement faire de user research, mais par contre, vous pouvez faire ça parce que c'est une avant-vente, vous n'allez pas, au niveau du chiffrage, peut-être présenter les choses comme ça. Au niveau d'un proto, vous pouvez aller dans cette direction, plutôt dans cette direction, etc. Donc lui donner un peu des pistes et même des pistes d'animation, des méthodes d'animation, de brainstorming, d'idéation. Aussi très concret, c'est est-ce que tu peux regarder mon CV dans l'état dans lequel il est? Tu me fais des retours. J'ai passé en asynchrone du coup, mais c'était 1h30 sur son CV à lire, décortiquer. Et puis après, je lui ai envoyé un long mail en disant ça c'est bien, par contre ça va pas, désolé c'est cash, mais si tu envoies ça comme ça, T'as le même CV que tout le monde, donc voilà. Et pareil pour la lettre de motivation, les phrases bateau de « j'ai acquis énormément d'expérience au contact des autres et machin bidule », on s'en fout. Donc qu'est-ce qui fait que toi, tu es Elena et que tu vas stand out vraiment par rapport aux autres, quoi? Se positionner au sein d'un groupe et trouver sa légitimité, trouver sa voix et composer avec les contraintes business aussi. Ça, comment j'ai fait? J'ai appris, je me suis un peu cassé les dents aussi. Je lis beaucoup et je lis beaucoup, que ce soit des livres ou des articles ou des conférences, mais voilà, c'est surtout comme ça. Et par contre, un des problèmes que j'ai pas eu, c'est j'ai eu la chance d'avoir toujours des super managers. Et ça m'a beaucoup aidée. Et alors, c'était pas forcément des managers qui comprenaient ce que je faisais. Donc c'était pas forcément des designers, ça pouvait être des chefs de projet, même j'étais managée par des personnes en sales, etc. Mais c'est des gens qui en fait arrivaient à mettre assez de disponibilité et d'écoute dans le lien pour identifier déjà eux avant même que je puisse le formuler. En fait, là, je sens qu'il y a un petit problème, machin, viens, on en parle. Ou alors, qui faisait vraiment du feedback très constructif. Par exemple, il y a un de mes managers, et Momo, si tu nous écoutes, je crois pas qu'il écoute ça, mais on sait jamais. Une fois, il m'a repris, on a fait un atelier de conception avec un client, et il m'a repris parce que je disais « je » pendant l'atelier, au lieu de dire « nous », parce qu'en fait, on était une équipe. Et ça, je l'oublierai jamais. Depuis, je dis plus jamais « je ». Donc voilà, donc c'est quand même important d'avoir des mentors. Et même s'ils sont pas identifiés comme tels, et donc certes j'ai pas eu des mentors, mais j'ai eu des bons managers, donc voilà.
Donc les premiers entretiens, ça a été brosser un peu le portrait de l'entreprise, les problématiques en interne qui pouvaient apporter des frictions, ce sur quoi je me sentais un petit peu faible en termes de compétences. Et du coup, notamment, par exemple, il y avait un projet sur lequel j'étais avec un de mes supérieurs qui était un peu flou et j'arrivais pas forcément à préciser, en fait, les tenants et aboutissants. Et d'en discuter avec François, il m'a beaucoup plus incité à poser ma réflexion par écrit. Et donc du coup à aller chercher un peu plus en profondeur, et donc du coup c'est aussi un des trucs que j'ai retenu, c'est d'oser plus en fait, ce côté qu'en tant que designer, ben il faut pouvoir aller chercher les zones de flou, les mettre en lumière, et c'est pas agréable au début. En étant avec quelqu'un justement d'extérieur au milieu, ce qui m'a quand même permis de vraiment prendre du recul par rapport à ma situation, par rapport à mon quotidien, parce que quand on a l'habitude d'une entreprise, il y a des choses qui, si on est extérieur, on va se dire « mais c'est évident qu'il faut changer ça », ou « c'est évident que là, il y a peut-être quelque chose à clarifier ». Et du coup, on a tendance à le laisser passer, en fait, à s'y habituer, comme une chaise moche qu'on a achetée. Et que du coup, on voit plus. Et en fait, ça m'a permis aussi de me dire que finalement, c'était peut-être pas le bon timing pour moi ou le bon endroit pour le moment, en tout cas. C'était pas forcément ce qui me correspondait le mieux à ce moment-là. Et ça m'a donné aussi l'impulsion pour me dire « je vais commencer à regarder comment se passe le design ailleurs et avoir autre chose, en fait. Mais je sais que de mon point de vue, c'est quelque chose que je dois travailler, prendre plus de risques pour peut-être aller voir des utilisateurs que j'ai pas l'habitude d'aller voir, quitte à, même si au niveau des parties prenantes, ils sont un peu frileux au début, je me suis rendu compte que après l'avoir fait, ça nous faisait gagner du temps et ça permet aussi de faire décroître l'angoisse en fait qu'on a dans un projet où quand c'est nouveau on sait pas trop où s'orienter. Et donc, c'est quand même, ça fait partie des choses que je pense pour un concepteur de manière générale, un concepteur et une conceptrice, c'est lever les zones d'ombre et faire venir la lumière dans le projet. Je conseillerais à d'autres mentorées, quand elles commencent, si elles sont dans une entreprise ou déjà dans, oui, dans une structure en train de travailler en tant que designeuse, de faire comme si elles arrivaient, c'était leur premier jour en fait, les premières semaines, et d'essayer de regarder leur entreprise comme si elles étaient étrangères à cette structure. C'est quelque chose que j'ai pas assez fait au début de ma période de mentorat. Et je pense que c'est vraiment utile, en fait. Parce que de profiter de ce moment où quelqu'un donne un miroir, finalement, de ce qu'on fait. Et comme c'est quelqu'un d'extérieur et de crédible dans le domaine, ça permet aussi de prendre du champ, prendre de la distance et de retourner dans cet état d'esprit neuf, en fait. Donc, moi, je conseillerais ça. Et de manière plus générale, ce que j'aimerais transmettre, c'est... comme je suis assez sensibilisée avec tout ce qui est du domaine de l'orientation, je me suis réorientée, en fait, avant de faire designer, j'étais en école d'ingé en informatique. Et du coup, je suis assez sensibilisée à ce côté de trouver sa voie. Et je pense que j'ai une culture d'aller chercher l'information. Donc ça peut être quelque chose que je peux transmettre aussi. Et j'aimerais transmettre les bonnes pratiques que j'ai pu avoir. En fait, cette espèce d'entre-deux, quand on est en train de chercher des idées, et où en fait, parfois en un ou deux jours, un projet peut prendre une direction vraiment totalement différente selon l'angle qu'on aura pris. Et moi, je trouve ça assez passionnant et j'aimerais bien transmettre ces bonnes pratiques qu'on peut avoir à ces instants-là. À quel moment agir, à quel moment aller demander un renseignement. Je sais que je suis assez... j'ai quand même un bon flair pour lever des lièvres. Et donc, du coup, d'arriver à transmettre ça, ça pourrait être sympa.
On est moi, ce que j'appelle des work in progress. Et mon mantra, c'est MVP your life. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... t'es pas une V1, une V2, etc. Non, t'en es à ta V. Imaginons, t'as 25 ans, t'en es à ta V25. Si t'es à ta V40, t'as pas fini, en fait. Tu vas toujours t'améliorer. Et donc, le premier conseil que je donnerais, c'est faites-le. Parce que d'une mauvaise expérience, on peut en tirer une bonne. Et d'une bonne expérience, on n'en tire que des choses positives. Et je donnerais autre chose. Quel temps tu vas y accorder et quel temps tu veux que la personne en face de toi y accorde. Si c'est une semaine par mois, c'est assez pour toi. Je pense que c'est important de le communiquer et que dans les deux sens, il y a une relation de transparence et de confiance. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir un avis extérieur. Sur justement qu'est-ce qui se passe quand on change de boîte, est-ce qu'on a raison de changer de boîte, est-ce que je remets trop en question ce que je pense, est-ce que mes attentes sont trop hautes, et j'avais besoin d'avoir un avis différent, ce que j'avais pas beaucoup, ce que j'ai toujours pas beaucoup, vu que j'ai des amis qui sont dans la même promo que moi et qui font foncièrement soit les mêmes métiers, on est au même niveau de notre vie, donc en fait j'avais pas jusqu'à ce que se fasse ce programme de mentoring, j'avais pas d'avis de senior ou de middle. Et donc, résultat, j'avais du mal à confronter mon avis. Vu qu'on est tous dans nos premières expériences, j'avais vraiment du mal à me déclencher cette action pour sortir de ma zone de confort. Au moment où j'allais partir du Figaro, en janvier, au moment où justement, moi, mon collègue à ce moment-là était beaucoup plus déterminé que moi et disait « Vas-y, moi, je pars, c'est bon, ça me convient pas, je vais voir ailleurs ». Moi, tout de suite, ça a été « Ouh là là, je perds tous mes repères, j'ai plus aucune stabilité, vraiment. » On m'a appris que la vie, c'est une chaise, qu'il y a 4 barreaux, et qu'il y a le barreau de la santé, le barreau de la famille, le barreau des amis, donc du lien social, et le barreau de la vie professionnelle. Que Dès qu'il y en a un qui commence à se fendre, tu tiens encore sur ta chaise, t'as encore 3 barreaux, mais dès qu'il y a le deuxième, et ce qui fait qu'en fait, après, tu peux vite fait tomber. Et donc, j'avais un moment où c'était vraiment compliqué pour moi, en tout cas, de faire face à ce défi. Et donc, j'ai eu besoin de faire un processus de deuil du Figaro, pour pouvoir entamer une recherche d'ailleurs. Ça a été vraiment toute une étape assez longue, pour le coup. Même une personne senior a besoin d'être mentorée.
Les problèmes que j'ai rencontrés pendant mon mentorat, c'était plutôt les problèmes au sein de mon entreprise. Parce qu'on était en train de réorganiser, c'était en train de réorganisation. Et je trouvais difficile de discuter avec les gens par rapport, ok, quel est ma rôle maintenant, quel feedback je dois donner à qui est mon vrai boss. Et tout ça, c'était pas très clair pour moi, parce que c'est une de ces différences en culture parce qu'en Pologne, les choses sont beaucoup plus claires, on peut dire. Les choses sont expliquées au départ, qui pas forcément toujours la meilleure méthode, mais on marche en manière différente. Donc moi, j'attendais un petit peu ça. Et en revanche, ma mentor, elle m'a beaucoup aidée à dire, elle m'a dit, écoute, ça marche pas comme ça en France, pas forcément, c'est un petit peu plus fluide. Il faut pas s'irriter surtout, parce que moi, je pensais que quelque chose va pas, quelque chose est cassé. Elle m'a dit non, c'est normal. Donc même ça, ça m'a aidé beaucoup, ça m'a calmé. Et elle m'a donné un petit trick que j'utilise aujourd'hui. Donc elle m'a dit, écoute, si tu peux pas comprendre comment marche ta entreprise, essaye de créer des personas pour les gens avec lesquels tu travailles. Comme ça, ça peut t'aider de prendre un petit peu recul, regarder la personne des différents angles. Et je trouvais ça un petit peu drôle au départ, mais vraiment, je trouvais que ça m'aide énormément, parce que si tu comprends pas la relation entre deux gens, déjà, si tu analyses la personne, si tu analyses ses motivations, vraiment, tu prends le temps à la comprendre, ça m'aide énormément. Et je pense qu'après ces 3 mois, même si la réorganisation de ma compagnie continue, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide pour moi aussi. Moi, je me suis positionnée en manière fluide aussi. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'avoir une claire idée qu'est-ce que tu veux obtenir avec ton mentorat. Parce que si tu veux juste parler avec quelqu'un, je pense que ça va pas les coups. Parce que déjà, il faut apprécier énormément l'opportunité qui est le mentorat. Parce que quelqu'un, mais dans son temps, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier. Il faut pas gaspiller ce temps. Donc, ça que j'essayais chaque fois à faire, avoir la liste, j'avais toujours j'avais mon book général. Mais pendant chaque réunion, j'avais des questions que je voulais poser. De ne pas les oublier de poser. J'avais la liste qui était toujours trop longue, donc j'ai coupé les questions qui n'étaient pas les super pertinentes. Et je pense que ça m'a aidé énormément. Je pense que, c'est ça, parce que c'est une espèce de respect vers ton mentor, son temps. Et il faut juste savoir exactement peut-être pas exactement, parce que ça peut toujours changer un petit peu, mais avoir idée générale qu'est-ce que tu veux et arriver préparé à votre réunion.
Chapitre 3. Comment être un ou une bonne mentor.
Pour moi, un mentor, si je pouvais résumer un peu en 4 mots, déjà c'est ouverture d'esprit, être ouvert. Être disponible. Je pars du principe que, ce que j'ai dit un bon nombre de fois, je me suis lancée justement dans cette aventure en étant disponible. Ça veut dire que si ma mentorée m'avait envoyé des messages tous les 2 jours, même tous les jours, je m'étais engagée à. Donc, il n'y avait aucun souci, au contraire. Au contraire, je peux aider, je suis là pour ça, je suis là pour aider. J'aurais voulu avoir la même chose. Donc, c'est disponibilité, être humble, voilà, ne pas survendre ses qualités, ne pas survendre son poste, ne pas survendre son expérience. Et ça, c'est un détail vraiment important. Évidemment, sourire, gentillesse, respect. Très très important, et ne pas oublier qu'on a vraiment un humain en face de soi. Et ça va plus avec l'ouverture, justement. C'est ne pas oublier que la personne en face de soi, elle peut-être être en reconversion, peut-être être stagiaire, ou peut-être être, je sais pas, directeur de création, avoir besoin d'une technicienne en tant que mentor sur telle spécialité, mais pas oublier que bah, la personne, elle a aussi son expérience, elle a aussi sa personnalité, donc qu'elle peut effectivement nous apprendre beaucoup de choses. Bah, quand on parle de légitimité, ne pas se sentir légitime, on a un rapport de confiance en soi. Tout de suite, on fait l'assimilation. J'ai toujours eu des problèmes de confiance en moi. Or, je me suis vraiment posé la question, c'est quoi être mentor ? Certaines façons. C'est quoi être mentor ? C'est juste être là pour une personne, répondre à ses questions. C'est savoir dire je ne sais pas. Et pour moi, j'ai même plus envie de dire qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas de légitimité à être mentor. Pour moi, comme je te le disais tout à l'heure, un stagiaire peut être mentor justement d'une personne en reconversion. Il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle pour être mentor. On peut être mentor en une heure, comme on peut être mentor justement d'une personne en trois ans. Et on peut même considérer qu'une personne dont on écoute les podcasts est notre mentor d'une certaine façon. Donc qu'est-ce que c'est être mentor, c'est en tant qu'acteur, c'est vouloir transmettre, avoir le désir de transmettre, avoir le désir d'écouter et d'être là pour une personne. Et avoir un mentor, c'est le désir justement d'apprendre et de suivre des conseils. J'ai considéré que mon directeur de création chez Publicis a été un mentor parce qu'il avait une façon de faire. Je ne le voyais pas tous les jours, je ne lui parlais pas tous les jours, mais il avait une façon de faire, une façon de me jeter un petit peu sur une tâche ou sur un logiciel que je ne connaissais pas, qui faisait que ça se rapprochait de moi, de ma personnalité, de mon éducation entre guillemets, et j'ai considéré que c'était un mentor. Et surtout, c'est lui qui m'a orienté vers le design d'expérience utilisateur, qui m'a montré le prototyping en particulier. C'était donc c'est un peu grâce à lui que je me suis vraiment que j'ai quitté la publicité pour vraiment focaliser sur ce que j'ai toujours aimé, les interfaces, le design d'interface.
Qu'est-ce que c'est un bon mentor ? Alors, donc, avec ma petite expérience de 3 mois, je pense qu'un bon mentor, c'est d'abord quelqu'un, c'est bateau, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est disponible. Donc, il faut être à l'écoute en direct dans le lien, et puis il faut être disponible, il faut pouvoir passer du temps, tout simplement, et essayer d'être le plus flexible aussi par rapport aux contraintes de l'autre, aux disponibilités. Enfin, faut créer du temps dans sa vie pour ça. Et comme on a quand même la chance d'avoir la user research dans nos bagages en tant que designer, en fait, tu te rends compte que c'est un skill qui sert vachement bien. Donc c'est l'entretien semi-dirigé, tu écoutes, tu poses des questions et tu creuses. Et arriver à faire dire, et ça c'est assez génial en user research aussi, enfin en entretien, quand tu arrives à faire dire quelque chose de profond qui était très implicite mais que la personne arrive à verbaliser au bout d'un moment. Donc c'est un bon skill à avoir. Après, faut rester humble et peut-être un des écueils dans lequel j'ai eu peur de tomber. Je sais pas si je suis tombée dedans. Il faudrait que je lui demande le feedback. J'ai eu peur de parfois plaquer trop mon expérience personnelle sur ses problématiques à elle. Mais c'était parce que c'était la seule ressource que j'avais à disposition à ce moment-là pour accueillir le problème et essayer d'en dire quelque chose. Voilà. Et puis un petit peu de de la positivité aussi, d'optimisme et être dans la ressource. Je vais te proposer un truc, je vais te suggérer quelque chose, enfin que pas laisser la personne bloquée dans ses questionnements, dans ses interrogations, comme beaucoup de gens, syndrome de l'imposteur, tout ça. Et alors surtout quand on a fait la session de matching, moi, je vois passer tous ces gens géniaux sur scène, ces mentors incroyables avec des superbes expériences, la plupart avec beaucoup plus d'années d'expérience que moi, et j'ai un moment je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait, voilà. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de cette histoire de syndrome de l'imposteur, ça veut dire quoi ? On va partir du principe qu'à peu près 90% des gens l'ont, donc qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment est-ce qu'on le dépasse ? Pourquoi ? Et je suis revenue à mon envie, en fait. Pourquoi j'ai envie d'être mentor ? Et il y a un savoir que j'ai envie de partager. Et je pense que ce savoir, il peut être utile à quelqu'un d'autre. Et c'est tout, en fait. Et ça me rend légitime. Et ça me donne aussi envie d'être mentorée à mon tour. Et les deux ne sont pas incompatibles, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai réussi à déplacer un petit peu cette question de la légitimité sur un truc un peu plus objectif. Et je pense que ça peut... Ça vaut pour plein de situations, en fait, dans lesquelles on se pose la question de la légitimité. C'est se poser un peu des questions peut-être un peu plus simples et sortir de soi un peu et de revenir à son désir aussi. Un désir, c'est légitime, donc voilà.
Alors, si demain je devais être mentor, je pense que ça voudrait dire que j'ai quand même acquis une certaine crédibilité à mes yeux et aux yeux d'autres pairs du design. Pour moi, ce que ça implique d'être un bon mentor, c'est d'avoir pu expérimenter des choses dans différents contextes, et donc de pas simplement avoir entendu parler d'outils ou d'ateliers ou de façon de prendre les gens, mais d'avoir pu les expérimenter. Et c'est un petit peu, je pense, comme un artisan qui sait travailler plusieurs matériaux et qui, selon les outils qu'il a, va pouvoir utiliser tel geste ou... au fur et à mesure de son projet, même si c'est pas exactement où il va, son expérience lui permet quand même d'aller dans une direction qui est crédible et qui est logique. Et je pense qu'un bon mentor, c'est quelqu'un qui déjà a pu expérimenter ça. Mais c'est pas juste l'expérimentation, il y a aussi la pédagogie. Savoir expliciter justement ce qu'il a pu apprendre. Et puis, peut-être aussi savoir l'adapter à la personne qu'il a en face de lui, en fait. De lui ou d'elle, pour le coup. Pour moi, il y a ce côté de savoir écouter l'autre et finalement de concevoir une réponse qui est adaptée à ses problématiques.
Hexagon UX et le programme de mentorat m'a vraiment appris, c'est qu'autour de moi, j'avais déjà, en fait, des mentors. Et ça m'a permis de me rendre compte que je faisais, dès que j'avais justement une question, que j'avais un problème, je me tournais vers des personnes. Et c'est maintenant, grâce au programme de mentoring, que je leur ai dit, je leur ai verbalisé le fait qu'ils étaient mes mentors, en fait. Un bon mentor, c'est quelqu'un à l'écoute, quelqu'un de bienveillant, et c'est quelqu'un qui va savoir communiquer avec le ou la mentorée. Poser les bonnes questions, mais aussi savoir se mettre en retrait. Je pars du principe qu'une personne qui vient avec un problème, foncièrement, c'est elle qui a la solution. La seule chose qu'on fait, c'est être des éclaireurs et mettre de la lumière là où la personne n'avait pas regardé. C'est-à-dire que si t'es dans une pièce, dans le noir, que moi je suis à l'extérieur, je vais pas pouvoir t'aider à trouver le bouton. Par contre, je vais pouvoir te poser les bonnes questions et te dire « Attends, quand t'es rentré dans la pièce, t'as forcément dû le voir ou peut-être qu'il y a un élément où tu sais qu'il n'y est pas du tout, donc tu vas pouvoir l'enlever. » Donc en fait, on vient juste éclairer et c'est la personne au fond qui avait la solution. C'est juste lui montrer, lui guider en fait. Si on met la solution sur un plateau, ce sera jamais aussi effectif que si la personne le trouve par elle-même.
Donc, dans ma vie, j'essaye d'aider les autres. Déjà, j'ai fait pas mal de meet-up UX. Si je rencontre des juniors, ils me posent parfois des questions parce que ça fait déjà 6 ans quand je suis en UX. Donc, je peux être mentor et mentorée. Je pense que je peux faire un petit peu les deux à ce moment. Donc, voilà, je reste toujours ouverte aux gens qui posent des questions. Et je fais aussi partie de page. Je me suis inscrite sur un service qui s'appelle My Job Glasses, qui est dédié aux gens qui cherchent le mentorat. Donc, si par exemple, c'est surtout pour des élèves ou les gens qui sont déjà à l'université, ils pensent aller à l'université, ils peuvent contacter les gens déjà qui travaillent et poser des questions sur les métiers, sur les études, etc. Donc, moi, je suis disponible là-bas et j'ai déjà reçu pas mal de gens qui voulaient savoir mon opinion, voilà, sur leur parcours. Est-ce que UX est pour moi? Tout ce type de choses. Donc, j'essaye d'échanger au maximum et aider les gens en cette manière. Une des choses que je souhaite transmettre, c'est exactement ça. Donc, rester ouvert aux opinions des autres, rester ouvert aux changements aussi de notre population, de notre client, des gens, est-ce que les gens changent? Internet et technologie, ça change tout le temps. Il faut rester vraiment vigilant et il faut rester dedans parce que sinon, on va devenir obsolète très vite. Donc, c'est ça. Mais aussi, j'aimerais bien aider les gens à croire en ses capacités parce que quand on est dans cet esprit de c'est toujours poser des questions, c'est facile de se poser des questions à soi-même, à ses capacités ou à ses compétences parfois. Et je pense que c'est un problème que beaucoup de gens rencontrent. Je pense que surtout les femmes, mais les hommes aussi, qu'il y a certains moments, tu penses à se douter, bah, est-ce que je suis vraiment un bon designer? Est-ce que je suis expert? Mais c'est parfois c'est difficile de prendre un recul, de voir, écoute, bah, j'ai déjà fait ça dans ma vie. Tu vas avoir 30 excellents projets. Et c'est facile de parfois l'oublier. J'aimerais bien aider à mes mentorés futurs de croire en soi-même.
Pour moi, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui est à l'écoute. Donc, il y a souvent des gens qui parlent beaucoup, qui partagent leurs expériences, mais souvent, ils n'arrêtent pas, ils ne comprennent pas pourquoi le mentoré a posé cette question. Ils ne prennent pas le temps pour comprendre le contexte. Et pour moi, vraiment, un leader et un mentor, c'est quelqu'un qui écoute plus qu'il parle.